Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
La nuit des 500 ans du Havre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 6h30 du matin pour cette nuit consacrée aux 500 ans de la ville du Havre. Il y a 5 siècles cette année, François Ier décidait de la fondation sur la côte normande du port et de la ville qui allait devenir le Havre. Depuis le mois de mai, le Havre célèbre comme il se doit ses 500 ans d'existence par une multitude d'expositions, d'événements, de manifestations en tout genre qui se poursuivront encore jusqu'au mois de novembre. Les Nuits de France Culture ne pouvaient manquer de saluer cet anniversaire par un programme spécial. Il faut croire d'ailleurs que le Havre nous passionne, puisque déjà l'année passée, et par deux fois, nous l'avions mis à l'honneur avec une nuit spéciale consacrée à sa reconstruction après-guerre, et avec aussi une nuit rêvée dont l'invité était Little Bob, l'un de ses citoyens les plus emblématiques. Pour cette nuit des 500 ans, nous avons composé un programme d'archives autour du Havre et même si ça ne peut être qu'un survol, nous essaierons avec nos invités de dérouler l'histoire d'une ville née d'un rêve de la Renaissance. Nous intéresserons plus particulièrement aux trois premiers siècles de son existence, à sa fondation et à son essor sous l'Ancien Régime. Nous le ferons en compagnie de Jean-Baptiste Gastine, auteur en 2016 d'une histoire du Havre qui est déjà un ouvrage de référence, et de Dominique Rouet, directeur des bibliothèques de la ville. Pour la deuxième partie de l'entretien de cette nuit, tournée davantage vers le 19e siècle du Havre, nous serons rejoints par Annette Audiquet, conservatrice du musée André Malraux, le MUMA. Jean-Baptiste Gastine, Dominique Rouet, bonsoir.
Bonsoir Alban Penaranda.
Bonsoir Alban Penaranda.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes, je crois, l'un et l'autre des Havrais d'adoption. Le Havre est une ville dans les filets de laquelle on peut très vite se laisser prendre, je peux en témoigner. Comment votre rencontre avec le Havre s'est-elle faite? Comment cette ville vous a-t-elle capturé? Jean-Baptiste Gastine.
Je suis arrivé au Havre il y a 23 ans exactement. Je suis parisien d'origine, né à Paris, ayant grandi à Paris. Et je suis devenu professeur d'histoire-géographie. Et mon premier poste d'enseignant a été le Havre, donc j'ai découvert le Havre de cette façon-là. J'y suis arrivé avec de la curiosité, un peu d'inquiétude aussi, et près de 25 ans après, j'y suis très heureux et je m'y plais beaucoup. Et c'est une ville attachante qu'on met parfois un petit peu de temps à apprivoiser, mais une fois qu'on l'a apprivoisée, on a du mal à la quitter.
Dominique Rouet.
Eh bien, moi, je suis normand. Je viens de l'autre côté de l'eau, comme on dit au Havre, c'est-à-dire de la rive sud de la Seine, plus exactement d'une petite ville qui s'appelle Bernay. Et je suis arrivé au Havre également pour des raisons professionnelles, puisque j'y ai été nommé d'abord comme conservateur chargé des fonds patrimoniaux de la bibliothèque. J'étais venu une fois auparavant au Havre dans mon adolescence. J'ai été vraiment frappé par l'architecture et par la lumière de cette ville. J'ai une image très, très précise de la porte Océane et du soleil qui illumine ces immeubles-là. Mais je n'étais pas revenu. Et effectivement, lorsque je me suis installé au Havre, comme Jean-Baptiste le dit, j'ai trouvé une ville à la fois très attachante, qui ne se donne pas forcément au premier abord, auquel il faut s'intéresser, mais qui ensuite développe des trésors. Et j'ai été un Havrais très vite conquis. Je crois qu'on devient assez facilement Havrais, en fait.
Jean-Baptiste Gastine, vous êtes historien, premier adjoint au maire, vice-président de la communauté de l'agglomération et vice-président de la région Normandie. Mais aujourd'hui, c'est l'historien que nous recevons, auteur de « Histoire du Havre de 1517 à 1789 ». C'était au départ la thèse que vous aviez soutenue en 2008, un livre sous-titré « Histoire d'une identité urbaine ». Quelles idées ont guidé votre réflexion et vos recherches pour ce travail et pourquoi avoir mis l'identité au centre de cette histoire des trois premiers siècles du Havre?
Au départ de ce travail et de cette publication, il y a une question extrêmement simple. J'ai voulu comprendre, au-delà de la décision de François Ier de créer une ville nouvelle, comment ça avait fonctionné, et comment il avait réussi, puisque le Havre est aujourd'hui une des principales villes de France. Donc comment ce projet, ce geste souverain par excellence, s'était concrétisé, comment on avait fait pour faire venir des marchands, comment on avait fait pour faire venir des habitants, comment on avait fait pour créer un port, développer des trafics, et comment ces habitants qui sont venus peupler Le Havre avaient créé un sentiment d'appartenance, quel type de lien s'était créé entre ces habitants qui partageaient pas la même histoire, qui partageaient pas toujours les mêmes origines, et donc comment une identité urbaine s'est créée et s'est renforcée au Havre.
Comment la destruction du Havre de 1944 a-t-elle pesé sur la manière dont a été abordée depuis par les historiens l'histoire de la ville et aussi sur la manière dont les Havrais eux-mêmes racontaient et se racontaient l'histoire de leur ville ? Jean-Baptiste Gastine.
La destruction de 1944 est une tragédie sans nom. Il y a beaucoup de victimes d'abord. La ville est massivement détruite et c'est le cœur de ville qui est massivement détruit. Ça fait que le Havre a un rapport au temps qui me semble particulier. Pas seulement du fait que c'est une ville jeune, 500 ans, c'est pas vieux pour une ville française, mais aussi par des ruptures majeures dans l'histoire de la ville, en particulier cette rupture de 1944, dont il a été longtemps difficile de parler, parce que les Havrais ont souffert, mais dans le même temps, les Français vivent la joie de la libération, c'est parfois la liesse, comme la libération à Paris. Donc ça a été difficile d'en parler pendant longtemps pour les Havrais. Et ça a entraîné aussi plus tard une sorte de nostalgie de la ville d'avant et peut-être une concentration des recherches vers la ville du 19e ou du début du 20e siècle. Ce qui fait que les trois premiers siècles du Havre ont fait l'objet de recherches, mais pas tellement, pas tant que ça, et que ces trois premiers siècles étaient pour une bonne part méconnus.
La destruction de 44, mais aussi sa reconstruction, peuvent donner du Havre l'impression d'une ville sans mémoire, sans trace de son passé, dont tout aurait été effacé, éparpillé. Or, ce n'est pas le cas, Dominique Rouet.
Et non, et heureusement, sinon on aurait du mal à retracer l'histoire du Havre. Ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons, comme Jean-Baptiste le disait. Le bombardement du Havre s'est essentiellement concentré sur le centre historique, donc il restait des quartiers qui n'ont pas été touchés. Toutes les collections précieuses des musées, les archives, le fonds ancien de la bibliothèque avaient été mises en sécurité. C'est le cas du Havre, mais c'est le cas de nombre d'autres villes en France. Au début de la guerre, des mesures ont été prises pour protéger ce qui était le plus précieux et on a ainsi envoyé dans différents châteaux, dans l'Orne, mais aussi dans le centre de la France, les collections qui étaient jugées les plus éventuellement en danger. Donc ces collections, elles existent encore. Et puis, il y a aussi, chez les particuliers, chez les collectionneurs, y compris des Français qui ne sont pas havrais, qui sont partis bien loin du Havre, puisque le Havre, naturellement, au cours de son histoire, est une ville où beaucoup de gens passent, arrivent, partent, et partent avec des parcelles d'identité du Havre, on peut le dire. Et donc, de nos jours encore, et très régulièrement, reviennent en vente aux enchères, ou bien des particuliers s'adressent directement auprès des institutions qui sont chargées de les conserver, des livres, des archives, de l'iconographie, des photos, des plaques de verre, que sais-je, beaucoup de témoignages donc, qui permettent de se représenter ce qu'était le Havre, y compris dans les périodes les plus... les premières périodes de son existence, donc y compris pour le XVIe siècle. Donc, le Havre a été bombardé, une grande partie de la ville détruite, mais les témoignages sont nombreux pour se faire une idée de l'histoire, du fonctionnement et de ce à quoi représentait le Havre dans ses premiers temps.
Et est-ce qu'on a toujours su dater précisément la date de création du Havre ?
Non, pas du tout, non, non. On a perdu la mémoire de la fondation du Havre et on ne l'a retrouvée que tardivement, finalement. Avec la découverte d'archives, mais Dominique pourrait en parler mieux que moi, dans un château, je crois, qui est des descendants de la famille du Chilou.
Hazel Rideau,
voilà. Et c'est au XIXe siècle qu'on fait ces découvertes précieuses. Et donc c'est seulement depuis le XIXe siècle qu'on a retrouvé la mémoire de la fondation du Havre. Ce qui fait que aucun centenaire de la fondation de la ville n'a véritablement été fêté. Dans un premier temps parce qu'on avait perdu la mémoire. Et puis le quatrième centenaire, on avait retrouvé la mémoire, mais il tombait très mal puisqu'on était en 1917, l'année terrible de la Première Guerre mondiale. Donc l'ambiance, le climat n'était pas à la fête, même si il n'y a pas rien eu, il y a eu des choses, mais ça ne pouvait pas avoir l'ampleur que ça prend aujourd'hui. Et donc que l'ampleur qu'ont eu cet été et que vont continuer à avoir les 500 ans du Havre.
Dominique Rouet.
Oui, ces archives très importantes qui documentent la fondation de la ville ont été retrouvées au château d'Azay-le-Rideau. Elles ont appartenu finalement aux descendants de la famille de Guillaume le Roy, sieur du Chillou, qui a été chargé vraiment de construire la ville pendant ses premiers temps, et dont l'arrière-petit-fils n'est autre que le cardinal de Richelieu. Et donc ces archives sont passées de génération en génération dans sa famille, et elles ont été redécouvertes par un historien, Stéphano de Merval, qui les a publiées. Donc on a vraiment des documents à la fois royaux et à la fois des documents comptables qui nous éclairent sur comment se sont faites très concrètement les premières opérations.
Il y a 500 ans donc cette année, le 7 février 1517, François Ier décidait de la fondation du Havre. À quelle nécessité répondait cette décision royale et dans quel projet politique s'inscrivait-elle Jean-Baptiste Gastine ?
Alors, on est 25 ans après la découverte de l'Amérique. Et la question de la découverte de nouveaux mondes, de nouvelles terres, la question du contrôle de nouvelles routes maritimes est présente dans les esprits. Et le roi ne veut pas laisser cette affaire-là aux Espagnols et aux Portugais. Et la Bretagne n'est pas encore définitivement rattachée au Royaume de France. Calais est encore anglais. Et donc l'estuaire de la Seine et les ports normands apparaissent comme les ports de l'ouverture du Royaume de France sur l'Atlantique, sur le Nouveau Monde et sur les richesses et les trafics qui ont vocation à se développer. Dans le même temps, le port de Rouen connaît un dynamisme commercial important et ce dynamisme risque d'être freiné par l'envasement du port d'Harfleur qui sert d'avant-port aux négociants, aux marchands de Rouen depuis longtemps, mais l'envasement du port d'Harfleur apparaît comme irrémédiable. Et donc le négoce rouennais demande au roi d'avoir un bon port dans l'estuaire de la Seine, soit un nouveau port, soit qu'on en modernise un, ça peut être Honfleur. Harfleur ne paraît pas très vite être une solution. Donc voilà le contexte général. Il y a aussi le contexte européen avec une rivalité croissante entre le roi de France et le roi d'Angleterre. On est seulement quelques décennies après la guerre de Cent Ans, qui a vu les Anglais prendre pied en Normandie, menacer Paris et la liaison entre Paris et la mer. Et il faut donc empêcher les Anglais de reprendre pied en Normandie, d'autant que cette province fournit à la recette du roi de France à peu près 20% du montant total, donc c'est une province très importante. Donc il faut éviter à tout prix que les Anglais reviennent en Normandie. Et donc le port sera fortifié, la ville sera fortifiée et devra garantir justement la mainmise du roi de France sur ses terres littorales. Enfin, il faut abriter des navires. Le Havre, c'est un abri pour les navires. Et donc les Rouennais pensent aux navires marchands et le roi pense aux navires marchands et aux navires dont il a besoin pour lutter contre le roi d'Angleterre sur mer, essentiellement dans la Manche. Voilà le contexte et les raisons principales qui conduisent à la fondation d'une ville portuaire.
Peut-on dire qu'avec cette ville nouvelle qu'est le Havre de Grâce, on crée une ville frontière, Jean-Baptiste Gastine ?
Oui, bien sûr, parce que le nom officiel qui va être donné à la ville, c'est ville françoise. Et à l'époque, le jeu de mots est totalement transparent. La ville françoise, c'est évidemment la ville créée par le roi François Ier, mais c'est aussi la ville française. Ça s'écrit de cette façon-là, à cette époque-là. Et donc, il s'agit de marquer son territoire, de marquer les limites de son territoire, de dire qu'est-ce qui est français et qu'est-ce qui est anglais ou qu'est-ce qui est français et qui a vocation à le rester. Et donc, le message est très clair. Ce territoire est français et les Anglais n'y sont pas les bienvenus. Le Havre est un choix anti-anglais.
Et donc très vite, quelques années après sa création, le Havre deviendra un grand port de pêche et aussi un lieu de base pour projeter la France vers le Nouveau Monde. Les grandes expéditions partant du Havre ne tardent pas, Jean-Baptiste Gastine.
Non, bien sûr, peut-être pas la plus connue, mais celle qui mériterait d'être le plus connue intervient très tôt après la fondation du Havre, puisque c'est Giovanni Verrazzano, un pilote florentin qui quitte le Havre en 1523, 6 ans seulement après la fondation, qui bénéficie du soutien de François Ier et qui va se lancer à la découverte de la route du Nord-Ouest. Il a eu connaissance de la découverte par Magellan de la route du sud-ouest, c'est-à-dire la route qui permet de contourner l'Amérique par le sud et d'aller en Inde, c'est-à-dire en fait en Extrême-Orient. Et assez logiquement, Verrazzano va chercher l'ouverture au nord-ouest du continent américain. Et donc, il quitte le Havre en 1523. Il fait une escale aux Açores. Et là, il va plein ouest et il touche le continent nord-américain, un peu au nord de la Floride. La Floride étant déjà connue, mais le reste étant totalement méconnu, totalement inconnu. Et donc, il va remonter, il va longer. Pour chercher ce passage, il va longer toute l'Amérique du Nord, un peu comme Amerigo Vespucci avait fait avec toute l'Amérique du Sud, longeant les côtes pendant 4000 kilomètres, découvrant des territoires totalement inconnus des Européens. Il est le premier Européen à découvrir le continent, le littoral atlantique du continent américain. Et le plus extraordinaire, c'est qu'on a un récit du voyage de Verrazzano et que ce récit est conservé. Et Verrazzano décrit les territoires, décrit les paysages, les escales qu'ils font, et ils mettent pied à terre à plusieurs reprises. Et il décrit magnifiquement le site de New York. Ce site sera baptisé Nouvelle-Angoulême, Verrazzano disant lui-même du nom que Votre Majesté a porté quand il avait une fortune moindre, puisqu'il était comte d'Angoulême et pas encore roi de France. Voilà. Et donc il décrit et il nomme tous ces endroits en hommage très souvent au royaume de France et à la famille royale.
Et un pont de la ville de New York porte son nom.
Voilà, les New-Yorkais, les Américains en général, ont reconnu l'œuvre de Verrazzano, bien mieux que ne l'ont fait les Havrais, les Normands ou les Français, puisqu'il est encore méconnu en France, en baptisant en effet, il y a maintenant un peu plus de 50 ans, le pont qui permet d'entrer dans l'estuaire ou dans sur le site de New York et de découvrir ensuite très vite Manhattan, du nom de Verrazzano en effet. Et ce pont est très connu puisque c'est aussi le départ du marathon de New York, avec des photos que tout le monde a en tête s'agissant de ce pont.
Dominique Rouet s'est tenu à la bibliothèque Armand Salacrou l'exposition « Quand le vent soufflera, piloté et navigué depuis le Havre au XVIe et XVIIe siècle » qui proposait au public de revivre l'aventure maritime des premiers siècles du port à travers des pièces exceptionnelles.
Effectivement, c'est une thématique maritime qui était très importante de traiter dans ces manifestations liées aux 500 ans de la ville. Jean-Baptiste évoquait à l'instant le voyage effectué par Verrazzano. L'exposition présentée à la bibliothèque, elle s'est constituée autour d'un personnage qui est Jacques Devaux, un autre de ces marins, cartographes, cosmographes pourrait-on dire, parti du Havre, puisque lui a été chargé de faire un voyage en Amazonie. Et il a ensuite remonté la côte du golfe du Mexique. Mais à la différence de Verrazzano, on n'a pas le récit qui a été perdu de son aventure. C'est un personnage aussi passionnant, même si on ne connaît pas toute sa vie, passionnant parce qu'il illustre la science nautique, la science maritime qui était à cette époque-là, même si ça n'était pas très organisé, enseigné au Havre. Et de lui, on conserve plusieurs cartes et deux manuscrits exceptionnels qui ont été conservés par la Bibliothèque nationale de France et qui a bien voulu nous les prêter pour l'exposition. En réalité, c'est une œuvre copiée deux fois, enluminée sur parchemin, qui est une somme de toute la science nautique qu'il maîtrisait. Il a fait rédiger lui-même ses documents en 1583-1584, finalement juste avant son voyage vers l'Amazonie, et sans doute cette œuvre-là était une manière de montrer à quel point il était capable d'être pilote pour le roi et chargé de participer à l'exploration de terres nouvelles. Et ces manuscrits exceptionnels comporte également une des premières représentations de la ville, une vue cavalière peinte qui nous donne un état très précis de à quoi ressemblait cette ville en 1583. Et les représentations du Havre au XVIe ne sont pas si nombreuses que ça. On a surtout des plans, des projets de fortifications ou des dessins qui s'attachent à montrer comment était défendue cette ville. Mais pour ce qui est de l'intérieur, du bâti, des rues, on a beaucoup moins de sources. Or, la vue dressé par Jacques Devaux nous apporte un certain nombre de renseignements, et à ce titre il était très important de pouvoir la montrer au Havrais et la faire revenir au Havre pour la première fois depuis 1584.
Jean-Baptiste Gastine, doit-on dissocier dans la volonté de François Ier la fondation de la ville de la fondation du port?
À mon avis non, mais ça peut être contesté. D'abord, les deux actes fondateurs, la lettre de commission qui a été évoquée par Dominique, et puis la charte de privilèges, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, le texte donne des privilèges aux premiers habitants. Ces deux textes ne sont séparés que de quelques mois. Le premier date de février 1517, le deuxième d'octobre 1517. Je pense que, comme l'a dit Dominique, la lettre de commission est très technique et donc s'en tient à l'essentiel. Je pense aussi que le roi avait sans doute le souci de ne pas effrayer trop rapidement les habitants d'Harfleur qui avaient beaucoup à perdre dans l'émergence d'un port à l'évidence qui avait vocation à remplacer Harfleur. Donc je pense qu'il a pu être un peu prudent et que c'est aussi ce qui peut expliquer ce décalage de quelques mois. Mais c'est un même élan, c'est un port fortifié, on n'imagine pas vraiment un port fonctionner sans des marchands, sans des professionnels de la manutention, sans toutes sortes de métiers. Et Harfleur étant éloigné du Havre de quelques kilomètres, d'une petite dizaine de kilomètres, paraissait difficilement envisageable de faire fonctionner un port avec une ville distante de plusieurs kilomètres. Voilà. Donc je pense que dans le schéma de François Ier, les choses sont assez claires, mais que par habileté, il fait les choses progressivement.
Et en quoi cette ville du Havre est-elle un rêve de renaissance ?
Alors parce qu'elle s'inscrit dans une période historique qui est celle de la Renaissance, et de la Renaissance française, François Ier étant dans la Vulgate le roi qui introduit la Renaissance en France. Sans doute que ça aussi, ça peut être nuancé. Mais de fait, il revient d'Italie après avoir vu des villes fortifiées de manière extrêmement moderne, après avoir rencontré des artistes, des architectes, des ingénieurs en fortification. Et le Havre est construit comme une ville extrêmement moderne de ce point de vue-là, avec des fortifications qui ne sont plus du tout des fortifications de type médiéval, mais des fortifications extrêmement modernes, avec des bastions régulièrement espacés pour porter de l'artillerie, parce que à Marignan en 1515 l'artillerie a été décisive, parce que pour défendre une ville contre une armée qui possède des canons, il faut aussi soi-même posséder des canons et pouvoir les disposer sur les remparts. Or les bastions sont et les boulevards, comme on les appelle, sont des endroits où on peut disposer de l'artillerie et donc remettre les défenseurs d'une ville au même niveau, ou en tout cas en mesure de lutter contre une armée d'attaque. Et donc le Havre est conçu de manière, en suivant une science très moderne, qui est la poliorcétique, et c'est comme ça que le Havre est imaginé, c'est comme ça que le Havre est réalisé, assez lentement finalement, il faudra du temps, des ingénieurs italiens vont venir au Havre travailler. Et c'est le cas en particulier de Bellarmato, qui s'intéresse évidemment aux fortifications de la ville, mais aussi au redressement de ce qui doit être redressé parce que l'alignement n'avait pas été totalement respecté par les premières constructions. Et puis à la construction de deux quartiers nouveaux, dont le quartier Saint-François, qui conserve encore aujourd'hui la trame urbaine, approximativement la trame urbaine voulue par Bellarmato, qui est une trame faite de lignes droites qui se croisent à angle droit dans un schéma où finalement les choses sont ordonnées comme elles doivent l'être dans le royaume par le roi lui-même. Donc le quartier Saint-François est à l'image de l'ordre que le roi fait régner dans son royaume.
Et le Havre avant le Havre, c'était comment ? Qui avait-il avant ?
Alors il y avait un territoire pas très hospitalier, battu par les vents, évidemment, assez marécageux, séparé de la mer par des cordons de galets. Ce territoire était fréquenté. Il y avait des habitants sur la paroisse d'Ingouville. Il y avait, toute proche du Havre, des habitants sur la paroisse Saint-Nicolas de l'Eure, où on construisait des navires, déjà, dans une fosse. Il y avait évidemment deux villes proches assez actives, celle d'Harfleur dont on a déjà parlé, mais aussi celle de Montivilliers, la cité des abbesses, une cité médiévale. Et voilà le cadre géographique dans lequel s'inscrit la nouvelle ville. Le caractère inhospitalier des lieux est rappelé très vite aux habitants, puisque en 1525, alors que la ville est encore en chantier pour une bonne part, une tempête d'hiver, sans doute impressionnante, ce que les habitants ont appelé la mal marée, autrement dit la mauvaise marée ou la mauvaise mer, le jour où la mer a été particulièrement mauvaise. Et donc le site est battu par les flots, et des cabanes sont dévastées. On dit, mais les sources ne sont pas très sûres de ce point de vue-là, qu'une centaine de personnes sont décédées et qu'on aurait retrouvé des embarcations au pied du château de Graville, c'est-à-dire très très loin de la mer ou des bassins.
Dominique Rouet.
Avant le Havre, il y avait aussi Graville, qui est une seigneurie, finalement, sur les terres de laquelle la ville du Havre s'est construite. Des terres, comme Jean-Baptiste le rappelait, assez inhospitalières, qui valaient certainement pas grand-chose. Mais lorsque le seigneur de Graville a vu qu'une ville se développait autour du port, il s'est rappelé au bon souvenir du roi, en revendiquant des terres et des droits qu'il avait sur ces terres. Donc ça fait partie des vicissitudes des premières années. Il a fallu, finalement, on pourrait le dire vulgairement ainsi, que le roi tape du poing sur la table et prenne en main la ville pour en faire une ville rattachée directement au roi et délier des liens que ce territoire entretenait avec le seigneur de Graville pour que les choses aillent mieux ensuite. Donc il y avait quand même une seigneurie qui régnait, qui s'étendait sur cet estuaire.
Jean-Baptiste Gastine.
Oui, ce que rappelle Dominique est un frein au premier développement du Havre. Beaucoup de témoignages dans les années 1530 disent que les habitants attendent du roi qu'il prenne la ville dans sa main pour les dégager de toute menace de droits seigneuriaux, de taxes seigneuriales à avoir, à payer au seigneur de Graville. Donc c'est quelque chose qui retarde le développement de la ville. Il y a autre chose qui va retarder le développement de la ville, c'est la mal marée dont j'ai parlé en 1525, et sans doute aussi la défaite de François Ier à Pavie. François Ier suivait d'assez près le premier développement du Havre. Il est venu visiter la ville nouvelle en 1520, et donc il avait un intérêt, une attention particulière sur cette fondation. Il y reviendra d'ailleurs à plusieurs reprises. Mais en 1525, il est fait prisonnier à Pavie. Il va être libéré assez vite, comme on sait, mais en échange d'une caution très importante. Et donc le premier élan donné au Havre est brisé à la fois par la malmarée et par la défaite du roi à Pavie. Et puis il y a cette incertitude qui est liée au statut juridique de cette ville. Est-ce qu'elle est seigneuriale? Est-ce qu'elle est royale? Et cette affaire-là n'est véritablement tranchée qu'en 1540, quand le roi prend la ville dans sa main, très clairement, et confie dans un même élan des travaux d'élargissement et de modernisation à Bellarmato.
Et qui sont les premiers habitants du Havre?
Les premiers habitants du Havre viennent de la pointe du Pays de Caux. On a longtemps parlé de Bretons, mais selon moi, ces Bretons sont des travailleurs temporaires, des travailleurs saisonniers qui viennent participer au chantier du port. Ils sont réputés pour leur capacité à travailler, en particulier comme pionniers, c'est-à-dire faisant des travaux de terrassement. Et il y a évidemment des travaux de terrassement importants à faire. En tout cas, il faut remuer de la matière pour creuser un chenal. Et ces Bretons, selon moi, il n'y a aucune trace de du fait qu'ils soient restés au Havre. Donc je pense que ce sont des travailleurs saisonniers. Les habitants, et là, il y a des traces formelles de cela, plus précise encore au XVIIe siècle qu'au XVIe siècle, mais c'est la pointe du Pays de Caux, c'est-à-dire ils viennent pour l'essentiel d'un triangle qui est constitué par le Havre, Fécamp au nord et Tancarville ou Lillebonne à l'est. Et puis déjà, dès le début, quelques habitants du Havre viennent de l'autre côté de l'eau, c'est-à-dire de l'autre côté de l'estuaire de la Seine, en passant par Honfleur. Il y avait un passager, en fait, c'est-à-dire une barque passagère qui, avant même la fondation du Havre, permettait de traverser l'estuaire de la Seine. Et donc déjà, au Havre, viennent habiter aussi des habitants de l'autre rive de la Seine.
Jean-Baptiste Gastine, vous distinguez trois phases de croissance du Havre durant les trois premiers siècles de son histoire et deux phases de crise, selon vous, tout aussi fécondes que les phases de croissance en termes d'identité. Durant la première époque du Havre, de 1517 à 1562, en quelques grands traits, comment décrire le premier essor du port et de la ville?
On ne sait pas véritablement mesurer les trafics à cette époque-là. Mais déjà, l'horizon américain s'ouvre au Havre, en particulier la pêche à Terre-Neuve. Les Normands sont parmi les premiers à se lancer dans cette activité lucrative, qui est la pêche à Terre-Neuve, avec la morue de Terre-Neuve qui est rapportée en France. Et qui se vend bien parce que il y a beaucoup de jours maigres dans le calendrier des Français et que pendant ces jours-là, le poisson est autorisé. Et la morue a bonne réputation avec sa chair toute blanche. Et donc les Havrais se lancent assez tôt dans cette activité-là. Et ils se lancent aussi dans l'activité qui était attendue d'eux par les marchands rouennais, c'est-à-dire que le port du Havre sert d'avant-port, en effet, au commerce rouennais. Il y a aussi des activités corsaires, des armements corsaires. D'ailleurs, le seigneur du Chilou pratique la course et les Portugais s'en plaignent régulièrement. Il y a ces voyages de découverte aussi. J'ai parlé du voyage de Verrazzano, mais d'autres voyages vont suivre. En 1555, Nicolas de Villegagnon part pour le Brésil. Il a l'intention de créer une sorte de colonie française et protestante. Et en fait, il fonde d'une certaine manière la ville de Rio. En tout cas, c'est la première implantation européenne à Rio, ce qui fait que le Havre a un lien d'une certaine manière et avec New York en Amérique du Nord et avec Rio en Amérique du Sud, ce qui est quand même pas mal.
Le Havre naît en même temps que la Réforme. Avec les guerres de religion, le lien originel et privilégié du Havre de Grâce avec l'État créateur a été sérieusement mis à mal. Quels ont été ces événements qui ont menacé la survie même du Havre à ce moment-là de sa prime jeunesse ?
Mais le Havre est créé comme un modèle de bonne ville. Parce que sous le règne de François Ier, les villes du royaume, ce sont des bonnes villes. Ça veut dire qu'elles font l'objet de la part du roi d'une considération, qu'elles entretiennent avec le roi des relations privilégiées, qu'elles y tiennent énormément, et que, en retour, le roi peut attendre d'elles loyauté, fidélité et aussi des territoires de croissance économique, des territoires où on crée de la valeur et où on crée de la richesse. Et donc le Havre est créé comme un modèle de bonne ville. Et ce modèle de bonne ville ne va pas se révéler une bonne ville modèle, puisque dès les premiers mois des guerres de religion, les protestants du Havre, mais surtout les protestants du parti protestant en France, s'emparent d'un grand nombre de villes, dont le Havre. Simplement, au Havre, les choses vont tourner autrement qu'ailleurs parce que le parti protestant français va trouver avec le Havre un moyen d'intéresser la reine d'Angleterre à sa cause. Et donc un traité va être signé avec la reine d'Angleterre, le traité d'Hampton Court en août 1562. Et il y a d'ailleurs un représentant de la ville du Havre, Jean Ferret, qui est présent et qui, par sa présence, dit clairement que le Havre va être et reconnaît l'idée que le Havre va passer aux mains des Anglais en échange d'un soutien militaire apporté par la reine d'Angleterre. Et donc le Havre est livré aux Anglais, ce qui est une sorte de trahison. Ça, c'est interprété évidemment par les catholiques comme une trahison, mais par le roi de France aussi comme une trahison. On se souvient que le Havre avait été créé pour empêcher que les Anglais reprennent pied en Normandie, et quelques décennies simplement après la fondation, le Havre est livré aux Anglais, donc les Anglais reviennent, et ils reviennent au Havre, et ils s'emparent du Havre. Donc cet événement-là est absolument décisif. Du côté anglais, c'est pas tellement le Havre qui intéresse. Les Anglais rêvent de reprendre Calais, et ils pensent qu'en tenant le Havre, ils pourront l'échanger avec Calais, qu'ils viennent de perdre quelques années auparavant.
Et sur quelle base se rétablira le lien entre le Havre et le pouvoir, et comment la ville et le port grandissent-ils au XVIIe siècle, et comment l'identité havraise s'affirme-t-elle alors ?
Les événements de 1562 et 1563 sont eux aussi fondateurs. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la première fondation du Havre a échoué. Pas totalement échoué, mais elle a échoué au sens où l'une des priorités, l'un des objectifs majeurs recherchés, c'était d'empêcher les Anglais de reprendre pied en Normandie et en France, et de ce point de vue-là, ça a échoué. Et donc, on assiste, après la reprise de la ville aux Anglais, en juillet 1563, à une entreprise de refondation, à une nouvelle fondation de la ville, ou à une fondation de la ville, à une refondation de la ville, c'est-à-dire une fondation de la ville sur des bases nouvelles. Il faut empêcher à tout prix que ce scénario ne se reproduise. Or, les protestants tentent à nouveau un coup de main sur le Havre en 1569. Les Anglais apparaissent toujours comme des soutiens effectifs et potentiels du parti protestant en France pendant les guerres de religion. Et donc, pour empêcher ça, le roi nomme un gouverneur extrêmement dynamique, extrêmement ferme et extrêmement catholique, qui déteste autant les Anglais que les protestants, c'est Sarlabos. Il maintient en garnison au Havre 5 compagnies. Donc ce gouverneur est à la tête d'une force militaire qui va rester au Havre, ce qui n'était pas systématique dans les années et dans les décennies qui ont précédé. Et puis le gouvernement du Havre va être à partir de ce moment-là exclusivement catholique. Tous ceux qui auront à exercer des charges municipales, et en particulier les échevins, mais aussi les officiers de la garde bourgeoise, seront jusqu'à la période révolutionnaire tous choisis parmi les catholiques de la ville, les protestants se trouvant exclus de l'exercice des charges municipales.
Dominique Rouet.
Oui, ce qui s'est passé en 1562-1563 est vraiment déterminant pour la suite, puisque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à l'exception près de la construction d'une vaste citadelle à l'époque de Richelieu, la physionomie du Havre ne va pas terriblement changer. En 1562-1563, ou plus exactement lorsque les troupes de Charles IX reprennent la ville sur les Anglais en juillet 63, il y a une question toute simple qui se pose, c'est est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut arrêter? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut maintenir le Havre et le fortifier à nouveau, ou est-ce qu'on arrête les frais? Le roi décide de poursuivre et le Havre va effectivement subsister. Mais à cette époque-là, il est aussi décidé qu'on va arrêter de faire croître la ville. Si on se reporte au plan, au dessin de François Ier et de Jérôme Bellarmato, la ville devait être beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendue vers l'est. Et à partir de 63, on abandonne cette idée-là. La ville est cette fois défendue par une citadelle sur le flanc est, ce qui va empêcher sa croissance. Et elle va garder finalement cette image-là jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment un moment critique où c'est décidé, certes la survie de la ville, mais une sorte d'arrêt d'un phénomène de croissance la concernant.
Et comment le Havre a-t-il vécu les guerres, les crises et les mutations qui jalonnent la deuxième moitié du règne de Louis XIV, Jean-Baptiste Gastine?
Alors, avant le règne de Louis XIV, il y a une période de croissance dans un espace contraint, comme vient de le dire Dominique. Mais la ville atteint 20 000 habitants, à peu près au milieu du XVIIe siècle. Et elle continue à prospérer sur le commerce de la morue et les Havrais arment une centaine de navires dans les meilleures années pour aller à Terre-Neuve. Richelieu a donné aussi un nouvel élan à la ville en commandant au chantier naval des navires, en renforçant encore, c'est vrai, les défenses de la ville avec une porte monumentale et aussi cette citadelle monumentale. Et donc le règne de Louis XIV et surtout la deuxième partie du règne de Louis XIV viennent briser à nouveau une ville qui connaissait un certain dynamisme. C'est d'abord les guerres avec l'Angleterre. Les guerres avec l'Angleterre sont jamais bonnes pour le Havre, simplement parce que pendant toute cette période, les Anglais dominent sur la mer et que quand la France est en guerre avec l'Angleterre, ils menacent le commerce maritime. Ils bloquent parfois l'entrée du port du Havre et donc tout commerce est parfois interdit. Et puis, ils bombardent en 1694, ils bombardent le Havre et selon les sources, il y a 150 maisons détruites, ça fait 10% des maisons détruites, et 150 autres maisons sérieusement endommagées. Donc le commerce de Terre-Neuve est interrompu, la ville est bombardée, le roi, pour financer ses guerres, rogne progressivement les privilèges qui avaient été attribués initialement à la ville. Bref, tout ça n'est pas très bon et la population du Havre est presque réduite de moitié en une génération, passant de 20 000 sans doute à 10-12 000 habitants.
Dominique Rouet.
Oui, c'est une période un peu paradoxale, la période Louis XIVienne pour Le Havre. On a une action de Colbert qui est là, qui va encourager le port, qui va créer un arsenal, qui va créer une école hydrographie. Donc c'est pas rien, mais en même temps on arrive dans la période où Brest, où Rochefort va être fondée, où Toulon va prendre beaucoup plus d'importance. Et l'étoile du Havre va un petit peu se ternir aussi à ce moment-là, parce qu'il y a d'autres grands ports en France qui vont l'emporter finalement.
Et que doit-on retenir d'essentiel dans l'histoire du Havre au XVIIIe siècle ? L'effacement du militaire devant le commerce, la fin de la pêche morutière et l'essor du commerce antillais, Jean-Baptiste Gastine ?
Oui, il y a tout ça. Le renoncement au Havre comme port militaire va se faire lentement parce que la solution de remplacement n'est pas évidente. Elle est évidente avec Brest en Bretagne. Elle n'est pas évidente sur la côte atlantique. Et sur le littoral de la Manche, la solution n'est pas évidente. Le Havre a beaucoup d'avantages. Le Havre est situé à peu près à mi-distance entre Brest et Dunkerque, face à l'Angleterre, sur l'estuaire de la Seine. Et donc la monarchie va renoncer au Havre en tant que port militaire, mais elle va mettre du temps à faire ce choix. Et ce choix ne sera véritablement... Enfin, l'orientation de ce choix ne sera prise véritablement que par Louis XVI, lors de du seul voyage qu'il fera et qu'il éloignera de Versailles. Qui est un voyage qu'il fait en Normandie en 1786. En 1786, et ce voyage le conduit à Cherbourg, qui va être la solution de remplacement, le conduit aussi au Havre, où il valide d'une certaine manière le plan de l'ingénieur Lamandé, qui est un plan de développement pour la première fois d'une ville portuaire, mais pour des raisons commerciales. À ce moment-là, l'orientation est claire. Le Havre deviendra presque exclusivement un port de commerce. Il sera déclassé progressivement comme port militaire.
Le Havre est une ville nouvelle qui a réussi et peu de villes nouvelles ont réussi. Elle a tenu, dites-vous, Jean-Baptiste Gastine, sinon toutes ses promesses, mais du moins certaines. Quelles promesses ont été tenues ? Quelles sont celles qui n'ont pas été ?
Alors, les promesses tenues, mais difficilement, l'obstacle fait aux Anglais, c'est-à-dire qu'à part le coup de 1562 et la présence anglaise pendant quelques mois, le Havre et la Normandie et la France va réussir à contenir les Anglais et à repousser les Anglais donc en dehors des limites du royaume. L'autre promesse qui est tenue, c'est évidemment celle d'un grand port de commerce. Vous l'avez dit, après la morue, c'est le commerce colonial qui est la grande affaire du XVIIIe siècle au Havre et qui va se prolonger au-delà du XVIIIe siècle. Le Havre devient un port colonial, un port d'importation de produits coloniaux. Donc on y importe du sucre, du café, du coton. Le Havre est un des grands ports où va se pratiquer le commerce triangulaire. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Et ce commerce colonial, ce commerce triangulaire entraîne un enrichissement plus important que ne l'avait permis la pêche morutière au XVIIe siècle, et donc des fortunes havraises se créent. Le commerce havrais commence à s'émanciper progressivement du commerce rouennais, duquel il était encore dépendant en particulier des investissements rouennais et parisiens. Et donc c'est un début d'émancipation havraise par rapport à ces deux villes mères, finalement, les deux villes qui avaient demandé ou avaient intérêt à sa création, qui sont Paris et Rouen.
Trois siècles, c'est donc la période que couvre votre ouvrage. Sans vouloir vous reprocher, bien sûr, de n'avoir pas fait plus long, pourquoi avoir choisi d'arrêter votre histoire du Havre en 1789, Jean-Baptiste Gastine ?
Alors vous avez raison, déjà trois siècles, c'est long. Et de couvrir une histoire de trois siècles, c'est long. Cinq siècles, ça aurait été encore plus long. Mais en plus, il se trouve que je suis plus à l'aise et plus spécialiste de la période dite moderne, plus que de la période contemporaine. Mais il y a des changements très importants qui se produisent pour le Havre. Soit du fait de la Révolution, soit avant même la Révolution. Comme l'a dit Dominique, le paysage urbain va être transformé puisqu'on abat les remparts, on détruit la citadelle avant même 1789. La garde bourgeoise qui a compté dans l'organisation sociale de la ville cesse d'être montée. Les capitaines de navires cessent de solenniser des fêtes religieuses qu'ils avaient commencé à solenniser dans l'esprit de la réforme tridentine, c'est-à-dire de la contre-réforme, ou de la réforme catholique, si l'on préfère. On cesse de recevoir solennellement les nouveaux habitants pour contrôler, en fait, les flux migratoires qu'on essayait encore de contrôler au XVIIIe siècle, alors que c'était difficile. Et puis la Révolution, elle est connue, bien sûr, pour avoir mis un terme aux privilèges du clergé et de la noblesse, mais les privilèges urbains, et ils comptaient encore un petit peu au Havre, les privilèges urbains, les privilèges qui avaient été octroyés à la ville au moment de sa fondation, et ces privilèges disparaissent aussi en 1789.
Jean-Baptiste Gastine, Dominique Rouet, merci. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de la nuit consacrée aux 500 ans du Havre. Dans un instant, François Ier, la Renaissance et le goût du monde, un numéro de Tout un monde proposé par Marie-Hélène Freissé en 2015, dans lequel d'ailleurs je signale aux auditeurs qu'elle fait une petite erreur, elle parle de la naissance du Havre en 1527 et donc nous l'aurons bien compris, cette nuit c'est en 1517 que le Havre est né. Et puis ensuite le Havre de ce côté-là de l'eau, premier temps d'une série de Ludovic Cellier pour Le Pays d'ici en 1995. Et juste avant de nous retrouver, Les Avatars du goût, L'épopée du café, un numéro des Chemins de la connaissance proposé par Marie-Christine Navarro en 1985. Jean-Baptiste Gastine, Dominique Rouet, nous nous retrouverons dans un peu plus de deux heures pour la suite du programme de la nuit des 500 ans du Havre et Annette Audiquet, conservatrice du MUMA Le Havre, nous aura rejoint. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. À tout à l'heure.